bonjour à tous. Et on s'en rend compte souvent trop tard qu'on écoute une parole, une musique, qu'on entende le bruit qui grouille autour de nous. C'est lorsqu'on doit tendre l'oreille que l'on réalise que l'on peut perdre nos facultés auditives. La semaine du son a débuté ce lundi et pour cette 10e édition, toujours un objectif, faire prendre conscience de ce sens si précieux qui semble si évident au quotidien mais qui est pourtant fragile. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Louis Orwiller, bonjour.
Bonjour.
Alors vous vous occupez de la semaine du son dans le Rhône, vous êtes audioprothésiste. On vit dans des environnements qui sont de plus en plus sujets à la pollution visuelle, sonore. Vous voyez chaque jour des patients arriver dans votre cabinet. Alors qui sont ces patients aujourd'hui? Et on ne vient pas forcément vous voir à un âge avancé.
Non. Bien sûr, la moyenne d'âge des gens qui viennent s'appareiller est quand même assez élevée. C'est-à-dire qu'on est à plus de 70 ans. Mais on commence à s'appareiller très, très jeune, en fait. C'était un élément essentiel de la construction de la voix. Si jamais on a une surdité profonde, en fait, il est important d'appareiller avant l'âge de 24 mois, puisque c'est là où se fait la construction du langage. Après, effectivement, on voit aussi arriver des personnes en détresse auditive, c'est-à-dire des gens qui... parce que nos portes sont ouvertes, vont venir poser une question suite à soit un accident auditif. Enfin, moi, je communique beaucoup dans le milieu de la musique, donc ça m'arrive. Soit parce que ils ont déjà vu pas mal de monde et qu'ils savent pas trop quoi faire, qui viennent nous voir un petit peu avec des questions. Personnellement, donc pour éviter justement que les gens arrivent trop tard, je fais un petit peu de prévention.
Alors, cela dit, jusqu'à présent, il y a quelques années, en tout cas, on voyait des personnes arriver à cause des conditions de travail qui pouvaient causer des pertes auditives. Aujourd'hui, c'est plus tellement les mêmes profils. On a aussi cette question, encore une fois, d'environnement sonore, et ça commence plus tôt.
Oui, en fait, c'est vrai que le droit du travail a évolué. Donc, nous, en tant qu'audioprothésistes, on voyait arriver énormément de personnes qui avaient passé beaucoup d'années dans du style toute une vie de travail, 42 ans dans le bruit. Maintenant, on voit arriver effectivement des gens suite à des accidents auditifs, donc qui peuvent être dus à la musique. Mais pas seulement.
Alors ça, c'est lié à nos habitudes.
Alors, il y a des habitudes de consommation. En faisant de la prévention, en allant dans les petites classes, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai été jusqu'au CE2 parce que c'est vrai que le message est pas simple. Donc, on a commencé par là. On s'aperçoit que les petits frères et les petites sœurs peuvent s'endormir avec le baladeur, effectivement.
Alors, vous allez justement dans les classes. Vous avez tout un panel d'actions de prévention.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un certain nombre d'actions de formation dans les écoles de musique, comme l'école des disjockeys de Lyon, d'ailleurs, où je suis fier d'intervenir.
C'est la seule formation diplômante, en fait, sur tout ce qui est prévention.
Oui, c'est la seule école en Europe, en fait, actuellement, qui donne une formation d'animateur musical et scénique. C'est-à-dire que, en fait, ils sortent diplômés avec un vrai diplôme de DJ, oui. Et pour l'avoir, maintenant, ils sont obligés de m'écouter. C'est un cours obligatoire. On le fait en général au mois de novembre, et avec toutes les promotions, et ça se passe pas mal.
Alors, intervention donc pour cette formation-là, mais aussi dans les classes et puis aussi sur les lieux festifs pour vraiment aller toucher le public.
Voilà, dans les petites classes, dans les festivals, que ce soit métal, techno, etc. Mais en général, dans les lieux festifs, il y a quelque chose qui n'est pas très très bien connu, enfin qui n'est pas évident. On parle toujours des musiques amplifiées. Et bon, c'est vrai qu'on peut avoir parfois des volumes un peu importants, mais dans l'orchestre symphonique et lyrique, vous pouvez avoir des niveaux moyens, ce qu'on appelle, enfin, des moyennes intelligentes, c'est le niveau d'énergie perçu à 110 décibels, en fait. Pour les musiciens de l'orchestre, ça veut dire qu'on peut être assez impacté par l'instrument du voisin, en fait.
Comment est-ce que vous êtes reçu justement dans ce type de manifestation? On pense au festival, c'est vraiment là que voilà, les gens viennent.
On est très bien reçu.
Pour faire la fête. Et comment est-ce qu'on fait, j'ai envie de dire, pour lutter un peu contre l'évidence? Parce que un niveau sonore élevé dans ce type de lieu, ben, c'est un petit peu aussi ce que certaines personnes viennent rechercher.
Oui, mais au bout d'un moment, en fait, bon, normalement, un bouchon doit être porté tout le temps de l'exposition. Mais on s'aperçoit que, au bout d'un moment, on a des gens qui viennent spontanément les chercher. On communique de plus en plus, les gens sont de plus en plus sensibilisés aux risques auditifs, et finalement, on est de mieux en mieux perçus, surtout en fin de journée.
Parce que le concert, c'est ce qui est le plus évident, on va dire, en termes d'exemple. On sait que les niveaux sonores sont relativement importants.
Les gens sont conscients. Il y a des comportements d'inconscience, effectivement, quand on est jeune, on peut d'avoir un certain déni, mais on est de mieux en mieux perçu, en fait. On nous remercie très souvent.
Là, la seule solution, c'est vraiment de mettre des bouchons d'oreilles, c'est ça?
Il y a plein d'autres possibilités. La première, c'est la gestion sonore. Donc, j'en profite toujours de toute façon pour aller discuter avec le personnel, avec les ingénieurs du son. Une autre solution, c'est de faire des pauses, parce que ça, c'est mal connu, mais de faire des pauses.
Alors ça, c'est valable dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, pas seulement voilà, dans des lieux où l'agression sonore peut-être est manifeste. Dans la vie de tous les jours, justement, pour préserver son capital auditif, c'est quelque chose d'essentiel.
Disons que si on pouvait s'enfermer quand on est en ville, oui, mais oui, en fait, bon, l'idéal, c'est de se mettre au calme autant qu'on peut. L'idéal, c'est de faire des pauses auditives de 10 minutes. Bon, le ministère de la Santé en recommande quand on écoute son casque, 10 minutes toutes les 45 minutes, mais vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, une pause de 10 minutes de temps en temps dans un endroit calme, ça fait du bien. Oui.
Un dernier mot sur le programme de cette semaine. Donc, la semaine du son, ça se déroule toute la semaine en région. Alors, à Lyon, on a une manifestation ce soir, rue Sœur-Bouvier, dans le 5e arrondissement, avec Radio Amandine, une radio éphémère dans une maison de retraite.
Oui, quelque chose de très très important. C'est une action qui est organisée donc par notre correspondant lyonnais qui s'appelle Jean-François Beau, que je salue ici, il va y avoir une radio éphémère en fait dans une maison de retraite, un endroit où la communication est essentielle et parfois dégradée. En tant qu'audioprothésiste, on s'en rend bien compte. Donc là, la participation des pensionnaires va être, enfin ça donne toujours des temps très forts. Il y en a souvent de ce genre de manifestations et c'est très gratifiant.
Merci Jean-Louis Orvillers d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous vous occupez de la semaine du son. Vous pouvez retrouver l'intégralité du programme sur lasemainedusson.org.
Exact.